Remue-ménage. Remue-ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonsoir, bonsoir et bienvenue, comme tous les mercredis sur Onde Femme, Radio Zone 93.8. Aujourd'hui, eh bien, je vous propose une quatrième émission sur le thème « La religion par les femmes » à partir d'un livre qui a été écrit par deux Américaines, Nancy Auerfolk et Rita McGrose. Et aujourd'hui, eh bien, un exemple particulier de ce que vivent les femmes très au quotidien, en l'occurrence ici au Maroc. Et puis bien d'autres, deux autres nouvelles liées aux femmes et la religion, des nouvelles liées à l'actualité, les femmes qui sont ordonnées prêtres dans l'église anglicane, et puis quelques nouvelles dans le débat qui, dans la région genevoise, par l'intermédiaire du journal Le Courrier, fait discuter les gens autour de la religion musulmane. Voilà, mais tout de suite, un peu de musique, histoire de se mettre du soleil dans nos yeux, puisque c'est ce que nous essayons de vivre toujours dans Remue-ménage, Radio Zone Onde Femme, 93.8.
Comare sedet tenne sel dromida, gusta notte manna, in gusta notte manna de Natale, a sudiri della diri della, a sudiri della dignità, e una iana che ridelità, rassuggiare di non so una viola, che le deva bandare grande sola, che il debono moda mi vagare, a sudiri della diri della, a sudiri della dignità. Assudiri della diri della, assudiri della diri della, assudiri della diri dai. Da casa mi desa ua fiori de mesa
casa vi del rocal, su battende ga su cortino, e tanda sabi de camino, in sol ma de le castello, e tanda sale arane, giù pro i sposare pro me, ma din di di din di da, din di di din di da, oi di li di 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 di li
en quelques heures prêtre de l'église anglicane, qui a décidé le 11 novembre 1992 à une majorité de 2 voix l'ordination des femmes. Et enfin, elle est devenue une réalité. Alors, joyeuse pour les uns, douloureuse pour tous ceux qui, dans l'église d'Angleterre, ne peuvent pas accepter cette décision. 100 de prêtres, voire 200, voire beaucoup plus, ça dépend des informations, a déjà décidé de passer à l'église catholique. Et d'autres, semble-t-il, le feront encore peut-être dans les mois qui viennent. La cérémonie de Bristol, qui a eu lieu le week-end de 12 et 13 mars dernier, eh bien, cette cérémonie à Bristol n'est en fait, semble-t-il, qu'un tout petit début d'une sorte de petite révolution dans l'église anglicane. Dans les autres diocèses du pays, eh bien, encore quelques 1300 femmes attendent d'être ordonnées. Et des soucis en vue, bien évidemment, pour l'église anglicane, qui doit payer, mon Dieu, ces soucis, qui doit payer des dizaines de millions de dédommagements aux prêtres qui partent alors que cette église compte de moins en moins de fidèles. Mais laissons de côté ces soucis matériels, c'est assez étonnant d'ailleurs pour une église qui devrait plus se soucier de problèmes d'esprit et de croyances. Et voyons un tout petit peu comment on peut essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, sous la plume de Cathy Macherel dans le journal Le Courrier et La Liberté, eh bien, on trouve une petite analyse de la situation. Elle dit ceci, « Le dépit des uns fait donc le bonheur des autres en accueillant dans ses rangs les prêtres anglicans qui ne supportent pas que les femmes puissent être leurs égales dans l'exercice de leurs fonctions. L'Église catholique, à l'entendre, a tout à gagner pour son enracinement sur le sol anglais. » On en est encore à l'époque de la conquête, ça c'est une note de la... voix parlante. C'est ma foi, selon Cathy Macherel, une habile et stratégique interprétation de cette petite révolution qui seront aujourd'hui les premières ordinations de femmes prêtres en Angleterre. Mais dans les maisons de Dieu, il faut du temps pour changer les choses. Et chez les anglicans, les femmes se battent depuis belle lurette, en fait depuis la Première Guerre mondiale, pour obtenir le droit à l'ordination. Au XIXe siècle, elles tentaient déjà des rôles... Elle tenait déjà des rôles importants au sein de l'Église, dans des paroisses et les hospices, s'en allant par-delà les océans pour diffuser la bonne parole comme missionnaire. Malgré cette longue tradition, c'est dans la douleur et au forceps, peut-on dire, qu'elles parviennent aujourd'hui à leur fin. Alors il semblerait que, par exemple, une des femmes qui a été ordonnée à Bristol, elle est très confortable dans son choix, puisqu'elle dit ceci, et je vous retrace ses propos. C'est Angela Bernes Wilson, qui a 39 ans, et qui sera la première femme à être ordonnée dans l'Église d'Angleterre. Un pas qui, pour elle, évidemment, est le couronnement de toute une vie dédiée à l'Église. Elle dit ainsi actuellement, « Je suis première aumônière ou premier aumônier anglicane de l'Université de Bristol et premier responsable de la paroisse anglicane de l'Université. Je suis permanente de l'Église anglicane, diaconesse, depuis 1979. En 1987, j'ai été ordonnée diacre. Depuis, je peux célébrer les mariages. » On lui pose la question suivante, « Que représente pour vous cette ordination ?» Sa réponse, elle est l'aboutissement d'une vocation ressentie depuis 20 ans. Et quelle est la position de votre mari ? Mon mari Andrew me soutient entièrement. Il est comme moi issu d'une famille de tradition anglicane. Son père était pasteur anglican, le mien aussi d'ailleurs. Mon mari travaille comme avocat pour le gouvernement local. Quel est le Dieu que vous entendez célébrer et annoncer ? Mais il n'y a qu'un Dieu. Je suis une chrétienne parfaitement orthodoxe. Vous savez que ces ordinations provoquent de nombreux départs. Très peu, environ 200 sur 10 500. C'est donc très peu. Si la décision d'ordonner des femmes n'avait pas été prise, les départs auraient été beaucoup plus importants. Maintenant, grâce à cette décision, les femmes reviennent, et puis les hommes aussi, bien sûr. Je ne suis pas sexiste. Autre écho, celui de la candidate la plus âgée, qui est Sheila Tiller, qui a 68 ans, et qui a été longtemps missionnaire en Inde. « Je sais que cette cérémonie sera un moment douloureux pour de nombreux fidèles, dit-elle, et je prie pour eux. » Du côté des médias, par contre, l'intérêt porte surtout sur sa collègue Jane Fortune Wood, qui a 32 ans et est enceinte de 3 mois. Alors, quelle est la réaction de l'Église catholique dans tout ça, puisque semble-t-il, c'est elle qui finalement va être la bénéficiaire de cette décision quasi révolutionnaire? Eh bien, à Rome, on se veut, semble-t-il, très conciliant. Et des pasteurs anglicans qui ont décidé de passer à l'Église catholique seront, semble-t-il, fort bien accueillis. Mais voilà ce que dit le cardinal Cassidy. les critères d'accueil restent les mêmes. Il faut que les Anglicans qui désirent entrer dans l'Église catholique acceptent entièrement la foi catholique. Précise le cardinal Cassidy, qui est président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Il souligne qu'il n'y a pas, il n'y aura pas de conversion collective, même dans le cas d'un groupe, et que l'acte de foi individuel est nécessaire. Les convertis pourront constituer, mais seulement pendant un certain temps, un groupe particulier, même après leur entrée dans l'Église catholique. Et attention, ces prêtres devenus catholiques pourront garder leurs épouses et leurs familles, puisque la religion anglicane le leur permettait. Alors, dernier commentaire de Cathy Macherel de La Liberté et Courrier. Eh bien, ce n'est pas demain la veille que l'on verra des femmes en soutane sous son toit dans l'Église catholique. Mais par contre, aujourd'hui, l'arrivée de prêtres anglicans dissidents, dont bon nombre avec femmes et enfants, aura peut-être le mérite de faire avancer par la bande la cause des prêtres mariés, défendue par un certain nombre de femmes qui vivent dans la clandestinité. Et d'hommes, mais semble-t-il que ce soit beaucoup les femmes qui se battent pour cela. C'est Shirley Scott, la reine de l'orgue, qui nous a accompagnés dans cette petite nouvelle concernant les femmes ordonnées dans la religion anglicane. Et maintenant, des nouvelles du débat qui a lieu dans le Courrier de Genève, quotidien genevois, et qui concerne l'islam. Les hommes ont autorité sur les femmes du fait qu'Allah a préféré certaines d'entre vous à certains autres et du fait que les hommes font dépense de leurs biens en faveur des femmes. Les femmes vertueuses font oraison et protègent ce qui doit l'être du fait de ce qu'Allah consigne. Celles dont vous craignez l'indocilité, admonestez-les, reléguez-les dans les lieux où elles couchent, frappez-les. Et si elles vous obéissent, ne cherchez plus contre elles de voies de contrainte. Le Coran, sourate Les Femmes, chapitre 4. Verset 38. C'est ainsi que commence le texte écrit par M. Houssin Ghali, qui adopte une position très critique face à l'islam concernant la condition des femmes en pays musulmans dans le cadre des textes publiés par le journal Le Courrier sur un dialogue entre les gens de différentes religions à propos de l'islam. Alors, je vais vous lire intégralement ce texte. Je pense que l'apport de M. Houssin Ghali est fort intéressant. Il y a des choses que, bien sûr, nous avons déjà découvertes par la voix des femmes que nous avons pu convier sur nos ondes pour parler de ces questions. En particulier, vous avez, par exemple, la semaine passée, eu l'occasion d'entendre les propos de femmes beurres, de femmes algériennes et de femmes du monde arabe ici à Genève. Mais je crois que ce qu'il y a d'intéressant dans le texte de M. Houssin Ghali, c'est qu'il se réfère sans arrêt à des textes du Coran, montrant bien à quel point cette religion a décidé de maintenir dans l'infériorité la femme. L'infériorité de la femme musulmane se trouve ainsi voulue par Dieu et inscrite dans le Coran. Et cela n'est guère étonnant, car l'oppression ancestrale de la femme musulmane correspond effectivement au processus historique et sociopolitique à travers lequel la société arabe s'est constituée et a évolué et s'est consolidée. L'avènement de l'islam n'a fait en réalité que maintenir et renforcer la prépondérance de la société patriarcale qui était de rigueur à la période pré-islamique en la cimentant par l'ordre coranique. Les hommes ont autorité sur les femmes, par les dons qu'ils leur ont octroyés, Dieu a élevé les hommes au-dessus des femmes. Coran, sourate Les Femmes, versets 34 et 92. Toute l'histoire du monde musulman a véhiculé cette conception despotique en mettant l'accent sur la faiblesse et la féminité de la femme face à la force et à la virilité des hommes. La raison principale de la création de la femme, c'est d'être épouse et mère avant tout. Son rôle se limite à soulager les difficultés de son mari et à lui rendre la vie plus agréable par son affection et son charme pour que lui, de son côté, lui apporte aide et sécurité. Le Coran, sourate La Génisse, chapitre 2, verset 223. En fixant dans ses textes la place et les devoirs de la femme, son éloignement des activités sociales fondamentales et son cloisonnement, la religion musulmane a largement contribué à la consolidation de sa domination et à l'efficacité de son assujettissement. C'est ainsi que tous les pays musulmans continuent de s'inspirer de plus en plus aveuglément de la morale du Coran et du droit musulman pour la promulgation des lois concernant les femmes. Dans ce sens, tous les codes du statut personnel, excepté en Tunisie, légitiment la pratique de la polygamie, interdisent à la femme d'épouser un non-musulman, tandis que l'homme peut le faire. Il faut savoir que la femme musulmane n'hérite que de la moitié de la part qui revient à l'homme et de la moitié de l'ensemble de l'héritage si l'époux n'a pas de fils. Elle n'a pas les mêmes droits que l'homme devant le divorce et peut être répudiée à tout moment selon le bon vouloir de son mari. En effet, le Coran n'a pas oublié de présenter la femme comme simple objet sexuel. Vos femmes sont un champ de labour pour vous. Venez à votre champ de labour comme vous voulez et œuvrez vous-même à l'avance. En plus, l'épouse musulmane est tenue à procréer, et notamment des garçons. Si elle est stérile ou n'enfante que des filles, elle est tenue responsable de cette malédiction et risque tout simplement la répudiation. Dans sa sourate 4, verset 19 et la sourate 14, verset 2, le Coran insiste sur la virginité et la chasteté des femmes musulmanes et gare à celle qui s'adonne à l'adultère, car elle sera flagellée en public et même lapidée à mort. Au contraire, l'homme musulman non seulement a droit à 4 femmes légitimes, mais aussi à tout un harem s'il est riche et autant de maîtresses qu'il désire. Supportant très souvent seule les différentes et harassantes charges domestiques, la femme musulmane subit aussi une ségrégation de fait devant l'emploi. Les rares innovations introduites grâce à de timides réformes n'ont apporté que des solutions superficielles et n'ont touché que peu de pays musulmans, tels la Tunisie, l'Égypte, le Liban, la Syrie, l'Algérie. Et encore, en ces dernières années, la montée des courants islamistes a même obligé les gouvernants de ces États à mettre un frein à ces réformes et même à faire valoriser les valeurs islamiques en tant qu'éléments intégrés à leur idéologie. Le pouvoir de tous ces rouages échappe aux femmes, ce qui rend la présence des femmes musulmanes insignifiante dans les appareils idéologiques et aux postes de décision dans les domaines de la culture, de l'économie, de la magistrature, de la politique et dans l'armée. Cette situation d'intégrale dépendance à la volonté masculine nous semble s'expliquer par les deux facteurs suivants. Premièrement, L'enracinement de la domination patriarcale à travers les siècles chez les hommes musulmans a engendré une situation de fait accomplie, un phénomène de pensée profondément ancré chez les mâles qui rejette violemment et automatiquement toute autre conception du rôle et de la place de la femme, donc toute forme d'égalité entre les sexes et toute cessation des privilèges masculins. Cette conviction profonde de l'infériorité de la femme a été célébrée par un grand nombre d'intellectuels musulmans. On dit par exemple « La femme, c'est comme un journal. Quand on sait ce qu'il y a dedans, ça ne sert plus à rien. La féminité de la femme est une fatalité, une sorte d'absurdité. » Cette conception de la femme comme être inférieure à l'homme, dénuée de sens moral, perverse et fourbe, séductrice et sans mesure, et ayant une sexualité débridée et incontrôlable, se trouve confortée dans les textes du Coran, de la charia, les lois islamiques, et dans toute une littérature, et chez des « savants » entre guillemets et des « penseurs » tout aussi entre guillemets, traditionnalistes et révolutionnaires. Réactionnaires, pardon, oh mon Dieu. Et peut-être le deuxième facteur qui explique cette dépendance totale des femmes par rapport aux hommes s'expliquerait par l'essence des pouvoirs politiques dans les pays musulmans, malgré les diverses tendances idéologiques qui les sous-tendent, ainsi que le succès de la déferlante islamique qu'on constate aujourd'hui, eh bien, ils ne permettent point un bouleversement fondamental de la condition de la femme. L'éducation des jeunes filles musulmanes consiste en la préservation de la virginité jusqu'à consommation du mariage, la négation du corps sexué, l'apprentissage de la soumission à l'homme, l'entretien de la maison et l'art culinaire. La domestication de la sexualité des jeunes filles constitue un régulateur pour tous les autres aspects de la vie sociale et politique. Nous voulons dire par là que la répression sexuelle s'avère le meilleur moyen pour bloquer toutes les tentatives de révolte, d'insubordination, donc de prise de conscience et de démystification des valeurs rétrogrades. En un mot, la domestication du corps se révèle comme la condition la plus efficace pour réaliser toutes les autres formes d'assujettissement. Aussi bien les textes du Coran que la morale islamique ont fait de l'honneur une question centrale. Mais là où le bât blesse, c'est que cet honneur ne repose surtout que sur la virginité des filles et la chasteté des femmes. Jusqu'à présent, et suite à la pression sociale et à l'arbitraire patriarcal, plusieurs femmes musulmanes sont mariées contre leur gré, dans leur pays ou dans leur pays d'immigration. Elles intériorisent leur révolte et finissent par subir les conséquences néfastes de ces liens autoritaires. Quant aux mutilations sexuelles, elles sont encore pratiquées en Égypte, au Soudan, en Syrie, au nord du Yémen, en Arabie Saoudite, dans les Émirats Arabes Unis et au sud de l'Algérie. La répression sexuelle a donné naissance à des frustrations dont souffre aujourd'hui la majorité des musulmans de la manière la plus terrible. L'agressivité, née du manque de satisfaction sexuelle, s'exerce de la façon la plus brutale dans tous les milieux de la société musulmane. À Tunis, par exemple, l'invocation directe ou implicite, mais constante, des termes sexuels et notamment de divers qualificatifs du sexe féminin est pratiquée par toutes les strates sociales. Pendant des siècles, la femme musulmane est restée absente du champ politique où la collectivité se définit, s'oriente et opère son choix en parfaite symbiose avec les décisions d'une minorité masculine. Actuellement, la situation a un peu changé, à part une infime minorité de femmes parlementaires, ministres, directrices d'école et juges. En Arabie Saoudite et au Soudan, à Koweït et au Yémen et dans l'ensemble des Émirats arabes, la femme est totalement mise à l'écart de la scène politique. Les Saoudiennes n'ont même pas le droit de conduire une voiture, sans parler de l'interdiction totale de faire partie d'une quelconque association ou syndicat. La mainmise des hommes sur les affaires politiques a été légitimée par l'incapacité naturelle du sexe faible, ainsi invoquée et citée par la loi islamique. La nature féminine étant soumise aux émotions et aux passions, la femme est inapte à assurer des charges politiques et à émettre des jugements sains. C'est une citation. Les associations féminines dont on entend parler dans plusieurs pays musulmans ne représentent qu'une simple émanation du pouvoir central, sans la moindre possibilité de décision et d'autogestion. C'est le cas en Tunisie, en Libye, en Iran, au Soudan et en Égypte, etc. Note de la voix parlante, il ne s'agit bien sûr pas des groupes féministes tels que nous les avons évoqués dans d'autres émissions. Ces organisations féminines se caractérisent en outre par les constantes suivantes. Subordination totale au parti et à l'idéologie dominante, prédominance, prépondérance des hommes dans la fixation des buts et des orientations, concentration des responsabilités entre les mains de deux ou trois femmes dirigeantes et en même temps membres des instances de l'unique parti au pouvoir, absence de toute analyse théorique objective se référant à la condition de la femme musulmane. La logique d'un grand nombre de dirigeants musulmans face à la condition de la femme s'avère à la mesure de la pathologie du rôle de l'homme, imbibé de son autosuffisance et du désir de la pratique de la domination. C'est pourquoi la libération de la femme musulmane ne peut se concevoir que par le bouleversement des structures fondamentalement patriarcales et objectivement réactionnaires de la société musulmane. En attendant l'émergence et le renforcement des mouvements islamiques ainsi que le renouveau de leur activisme renforce encore plus la répression et l'oppression de la femme musulmane. C'était une contribution de Houssine Ghali au dialogue dans le journal quotidien Le Courrier de Genève. Et il conclut ainsi son texte. Les musulmans de Genève ont participé au dialogue interreligieux dans les colonnes du Courrier et ils ont escamoté cette question. Mieux encore, dans une lettre de lecteur parue dans ce journal le 24 février dernier, M. Xavier Carlo, visiblement fraîchement islamisé, affirmait tout tranquillement, je le cite, « L'islam ne soumet pas la femme à son mari ou à son père, puisque cette religion soumet tout être humain à Dieu. » Commentaire de M. Houssine Ghali, « Il s'agit là de faire dire à Allah ou à son prophète Mohammed ce qu'ils n'ont jamais dit, ce n'est guère le bon comportement d'un musulman. »